Et on retrouve les informations avec vous, Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Le recueillement et l'unité de la nation après le meurtre d'un prêtre dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, hier près de Rouen. Une messe sera célébrée dans quelques minutes à Notre-Dame de Paris. C'est l'heure des questions aussi, on évoquera comment fonctionne la détention provisoire avec Willy Moreau, détention provisoire qu'a effectué l'un des auteurs de cette attaque. Nous évoquerons les pratiques des médias qui décident de quelques changements après ces attaques à répétition en France. Nous irons à Cracovie suivre le discours du pape François devant les jeunes pèlerins réunis aux Journées mondiales de la jeunesse. Le monde est en guerre, a dit le pape François, mais il n'est pas en guerre de religion. Bref, ce sera l'essentiel de notre journal qui sera une fois de plus ce soir consacré à cette attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray. L'heure du recueillement, l'heure de l'unité, l'heure des questions aussi, après l'attaque de paroissiens par deux hommes armés de couteaux dans une église catholique hier matin à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. L'heure du recueillement à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans quelques petites minutes, une messe d'hommage au prêtre présidé par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. 1500 personnes sont attendues, parmi lesquelles de très nombreuses personnalités politiques. On parle d'anciens chefs d'État, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, le président du Modem, François Bayrou, le vice-président du Front National, Florian Philippot, des membres du gouvernement, le Premier ministre et le chef de l'État, François Hollande, qui recevait ce matin les responsables de tous les cultes sur le plan sécuritaire. Il n'est pas nécessaire de mettre un policier devant chaque lieu de culte, ont estimé certains de ces religieux, avec tout de même une attention particulière, a estimé par exemple Dalil Boubekeur, une attention particulière tout de même pour ces lieux de culte. Pour les musulmans, dit aussi le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubekeur, il évoque et relance une vieille proposition d'une formation laïque en plus d'une formation religieuse des imams. On va prendre tout de suite la direction de Cracovie, en Pologne, avec cette parole très attendue, celle du pape. Vous savez que se sont ouvertes hier les Journées mondiales de la jeunesse. Alors que se déroulait l'attaque de Saint-Étienne-de-Rouvray en France, des pèlerins, des jeunes, des JMJ qui attendent leur pape François. Bonsoir Mathilde Imberti. Vous accompagnez le pape François, qu'a-t-il dit ?
Eh bien, écoutez, le pape François est revenu tout d'abord sur l'assassinat de ce prêtre français, hein, dès les premiers instants du vol vers Cracovie, ce qui est assez inhabituel, une intervention exceptionnelle. Hein, d'ordinaire, le pape s'exprime devant les journalistes sur l'actualité, mais pendant le vol retour. Cette fois, il y avait urgence, il y avait l'actualité qui l'a bouleversé, l'actualité française. Il a pris la parole pour évoquer le père Hamel, un saint prêtre, a dit le pape, tué alors qu'il offrait la prière. Et d'ajouter, il s'agit d'une victime. Mais combien d'autres chrétiens tués, combien d'innocents, combien d'enfants. Le pape ensuite a remercié les personnes qui l'ont contacté après l'assassinat du prêtre français hier. Et en particulier, le président Hollande, qui lui a téléphoné comme un frère, a dit le pape François. On retiendra aussi développement sur la guerre, vous l'avez dit, nous sommes en guerre, a martelé le chef de l'Église catholique, mais ce n'est pas une guerre de religion, les religions, toutes les religions veulent la paix, je parle d'une guerre d'intérêt, a poursuivi le pape, une guerre pour l'argent, pour les ressources naturelles, pour la domination des peuples. Donc, une intervention consistante dans l'avion qui le portait à Cracovie, avant d'entamer sur place le programme qui était établi, premier discours au peuple polonais, au palais présidentiel, avec une invitation à accueillir les réfugiés, ce sera un autre thème de ces Journées mondiales de la jeunesse. Et puis le pape s'apprête à rencontrer dans les prochaines minutes en privé les évêques de la Pologne, la nation de Jean-Paul II, et qui est aussi un bastion catholique en Europe.
Mathilde Imberti en direct de Cracovie en Pologne. À Saint-Étienne-du-Rouvray, on tient à faire une mise au point. C'est la communauté musulmane qui l'a fait quelques heures après l'attentat d'hier matin. Le président du Modem, François Bayrou, avait en effet déclaré que la mosquée était salafiste, qu'elle abritait une communauté qu'il qualifiait de fanatisée. C'est une accusation absurde, mensongère, dit cet après-midi le président du comité du culte musulman en Normandie, Mohamed Karabila.
On mène ce combat-là depuis longtemps. Et les autorités locales, ils le savent très bien. Donc ici, on n'a jamais mis d'imam auto-préclamé. On a un imam qui a été formé, qu'à un certain âge, qu'à une famille, quelqu'un de sérieux. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'un homme politique de l'envergure de Bayrou puisse prononcer ces paroles et nous accuser de quelque chose qui n'est pas avéré.
Il y a eu le cas Maxime Ochard, il y a aujourd'hui le cas d'Adèle. Comment on explique, et est-ce que vous avez une vision sur ça, vous, en tant que président du CRCM, sur les noyaux qu'il peut y avoir ici? Est-ce qu'on a ici, dans la région, des noyaux djihadistes, des noyaux islamistes?
Moi, je connais pas de noyaux. Si je connaissais, je les aurais dénoncés depuis longtemps. Moi, je suis un citoyen avant tout, avant d'être président d'association. Si j'ai connaissance de quelque chose qui va à l'encontre de nos croyances, à l'encontre du vivre ensemble, ben, je le signalerai aussitôt aux autorités. À mon avis, notre ennemi, il se situe sur la toile, et c'est là que les hommes politiques doivent légiférer pour qu'il y ait interdiction de regarder, surtout pour les mineurs, de regarder ce genre de discours, quoi.
Mohamed Karabila, président du comité du culte musulman en Normandie, il répondait à Bertrand Quenotte, notre confrère de France Bleu Haute-Normandie. Sur les deux auteurs des faits, dont le deuxième homme est d'ailleurs toujours en cours d'identification, on sait qu'ils sont jeunes, autour de 19 ans, on sait qu'au moins l'un d'eux a voulu rejoindre la Syrie sans y parvenir. Il a été interpellé deux fois sur cette route, puis placé en détention provisoire, puis sous bracelet électronique. Si l'on se concentre sur cet aspect de la procédure, Willy Moreau, comment cela fonctionne-t-il?
Alors, en mars 2015, vous l'avez dit, Adel Kermiche est mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Les juges ont alors la possibilité de le placer sous contrôle judiciaire, ce qu'ils font. Puis il est incarcéré après une deuxième tentative de départ. Là, il passe 10 mois en détention provisoire dans une maison d'arrêt. Et le juge d'instruction prononce finalement sa libération conditionnelle, puisque le jeune homme assure avoir compris ses erreurs. Pour cela, il se base sur une enquête psychologique. Elle précise que si ses parents acceptent de l'accueillir chez eux, c'est parce qu'ils pensent sincèrement que le jeune homme s'est trompé et qu'il ne tentera plus de partir. Libéré, mais pas lâché dans la nature pour autant, interdiction de quitter le département, obligation de se soumettre à une prise en charge psychologique et autorisation de quitter le domicile familial uniquement entre 8h30 et 12h30, des mesures qui ne l'empêchent pas de passer à l'acte. Adel Kermiche est toutefois un cas rare. Fin 2015, sur les 285 suspects mis en examen dans des dossiers antiterroristes, seuls 21 ne se trouvaient pas en prison. Que faire d'autre contre ces personnes voulant quitter le pays à des fins terroristes? Depuis la loi du 13 novembre 2014, les juges peuvent interdire tous les Français voulant rejoindre des groupes terroristes à quitter le territoire. Ils peuvent aussi saisir passeport et carte d'identité contre un récépissé. Pour les mineurs, le juge d'instruction peut mandater un éducateur. Une juge d'instruction m'a même expliqué avoir envoyé au Maroc un mineur visiblement radicalisé mais connaissant très mal l'islam. Mesure qui aurait permis de déradicaliser l'individu.
Willy Moreau, voyons à présent l'une des conséquences de cette nouvelle attaque terroriste en France, c'est le changement de comportement de certains médias, des titres de presse, Le Monde, L'Humanité, Libération, La Croix, des télévisions, Tout Info comme BFM TV, ont choisi soit de ne plus montrer des photos des terroristes, ou pour d'autres titres, de ne plus donner leur nom, ou n'en donner que les initiales, c'est selon. Je vous renvoie d'ailleurs à l'article disponible en ligne sur le franceculture.fr, où vous retrouverez l'interview de Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, diffusé dans notre précédente édition à 12h30, réalisée par vous, Cécile de Cavazdoué. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a une autocritique qui est à l'œuvre, mais avec certains commentaires qui émanent déjà une façon de se donner bonne conscience, dit-on. En tout cas, cette réflexion a déjà été entamée à l'étranger, en dehors de nos frontières.
Oui, finalement, on peut dire que la France est un petit peu en retard sur cette réflexion ou sur ce débat médiatique. Aux États-Unis, ça fait des années qu'il est en cours. Confronté aux meurtriers de masse, les médias américains et les politiques se sont interrogés. Faut-il ou non montrer des photos, révéler le nom, le parcours, les habitudes, la vie privée de ces meurtriers de masse, alors que pour certains, c'est leur donner une forme de postérité. Ce débat n'a jamais été tranché outre-Atlantique parmi les journalistes, et c'est chaque organe de presse aujourd'hui qui décide au cas par cas. Dans les pays du Maghreb, en revanche, la plupart des journaux ne montrent pas de photos de terrorisme, a expliqué un observateur de Courrier International. Et quant au nom, eh bien, ils ne donnent que le prénom et la première lettre du nom de famille, voire que les initiales. L'idée, c'est que donner des détails de ce type peut au mieux encourager le voyeurisme autour de ces personnages et au pire une forme d'idolâtrie, parce que ça peut provoquer une forme de starification, donc d'identification, qui sont, on le sait, parfois des facteurs de déclenchement d'autres passages à l'acte. En Suisse, en novembre dernier, un papier du Temps révélait que la radio-télévision suisse publique a décidé, malgré la polémique, de ne plus montrer ni les visages des terroristes pour ne pas leur offrir un quart de célébrité et être complice de leurs gestes, et ne pas forcément dire leur nom non plus. En revanche, l'âge et l'origine de ces individus est indispensable pour comprendre, et ce sont des éléments d'information, explique le rédacteur en chef suisse, qui rajoute que la pression des autres médias, et notamment de la toile, est très forte, et surtout que beaucoup de consommateurs de médias exigent d'avoir ces détails. Alors attention, préviennent de leur côté Die Welt, le journal conservateur allemand, qui écrit hier, attention de ne pas laisser le champ libre à Twitter et Facebook, c'est-à-dire au règne de la rumeur et du mensonge. Attention, dit sur la même ligne Avvenire en Italie, pour qui ce débat journalistique est indispensable. Il faut s'en emparer en Europe pour éviter le cirque dangereux des réseaux sociaux.
Cécile de Kervasdoué, l'autre attaque qui a frappé la France, c'était à peine il y a 13 jours à Nice. La police des polices vient de rendre son rapport sur le dispositif de sécurité qui n'était pas sous-dimensionné. Les polémiques suscitées, les accusations de mensonges sont même le fruit d'une mauvaise compréhension ou d'une mauvaise interprétation, commente la directrice de l'IGPN. Enfin, pour clore ce dossier, le ministre de l'Intérieur a reproportionné les forces de l'ordre pour les 56 grands événements estivaux. 23 500 policiers, gendarmes, militaires et réservistes seront donc mobilisés. Décision du Conseil de défense de ce matin à l'Élysée. 18h11 sur France Culture. Hillary Clinton est bien officiellement, depuis la nuit dernière, la candidate démocrate à la Maison Blanche au mois de novembre contre le républicain Donald Trump. Les 5000 délégués démocrates l'ont investi hier soir. Cette nuit à Philadelphie, c'est le président Barack Obama qui viendra en personne discourir. La dernière fois pour lui qu'il le fera devant des démocrates. Et ce sera donc dans la ville historique des présidents américains, là où la Constitution a été rédigée, Frédéric Carbon.
À Philadelphie, nous sommes dans la capitale de l'histoire politique américaine. Et la famille Bartle commence sa visite dans le jardin de la maison où a été fabriquée la première bannière étoilée. Le père William a voté Obama à deux reprises et pour lui, l'héritage du président, ce sera justement son élection. Il sera pour toujours le premier président noir de ce pays, on ne l'oubliera jamais. C'est plus sa personne que ses actions qui vont rester. Sentiment partagé par ce musicien installé devant le bâtiment où la Constitution américaine a été signée.
Nothing changed because he...
Edith Buddy trouve que rien n'a changé pour les Noirs dans ce pays, mais c'était prévisible, dit-il. Il faut bien être le président de tous. La question raciale domine la fin de mandat de Barack Obama et c'est le principal reproche que lui fait Vincent, venu de Californie, honorer les pères fondateurs. Tout ce qu'il fait génère des tensions raciales. Il ne parle que de cela et rien sur l'économie, accuse ce républicain. Il porte un t-shirt à l'effigie de Ronald Reagan et un sac à dos Donald Trump. Pour lui, Barack Obama n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire américaine.
Au moins 44 morts, 140 blessés, ça s'est passé en Syrie ce matin. Bilan extrêmement lourd d'un double attentat qui a frappé la ville de Kamishli, ville du nord-est syrien, frontalière avec la Turquie. C'est l'attentat, Valérie Crova, le plus important qu'ait connu cette ville du Kurdistan syrien.
Effectivement, l'attentat au camion piégé s'est produit dans un secteur de la ville où se trouvent les services de sécurité de l'administration kurde. La déflagration a été si puissante qu'elle a été ressentie à Nusaybin, une ville qui se trouve de l'autre côté de la frontière turque dont Kamishli est très proche. La province d'Asaki, à laquelle appartient Kamishli, est en grande majorité contrôlée par les YPG, ces unités de protection du peuple kurde qui ont créé en mars dernier des zones autonomes dans le nord-est syrien. Les forces kurdes ont repris aux djihadistes de Daesh de vastes pans de territoire dans cette partie de la Syrie. Soutenues par les Américains, elles sont à la pointe des combats contre l'État islamique, y compris dans la province d'Alep, où elles se battent pour reprendre le contrôle de la ville de Manbij, l'un des fief de Daesh, une ville assiégée depuis plusieurs semaines et qui fait l'objet quotidiennement de raids aériens de la part de la coalition internationale. Ceci explique que la ville de Kamishli soit prise pour cible par les djihadistes qui émènent régulièrement des attentats en représailles au soutien apporté par les forces kurdes. En juin, un kamikaze avait actionné sa ceinture d'explosifs dans le centre-ville, tuant 3 personnes. En avril dernier, un autre kamikaze s'était fait exploser à un point de contrôle. Il y avait eu 5 victimes, 5 policiers, avec plus de 40 morts. Vous le rappeliez, l'attentat d'aujourd'hui est de loin le plus meurtrier.
Valérie Crova, l'Espagne et le Portugal peuvent respirer un tout petit peu ce soir. Leur trajectoire budgétaire n'est pas complètement satisfaisante aux yeux des traités, aux yeux de Bruxelles qui menaçait d'une amende. Mais il n'en sera rien, Jean-Marc Chardon. La Commission européenne offre du temps aux deux États membres de la péninsule ibérique.
Oui, du temps, pas de l'argent, car c'est bien le risque que faisait peser la menace de sanctions. Des amendes à hauteur de 0,2%, au pire quasi nul, comme le recommandait Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Et finalement, rien. Enfin, rien de tel. Ce qui ne veut pas dire que ces États vont pouvoir sortir des radars de la surveillance budgétaire de Bruxelles, certainement pas, car l'abandon de sanctions financières n'est qu'un geste de clémence d'une institution qui a voulu simplement manifester de la compréhension, montrer qu'elle appréciait des gestes de bonne volonté pour des États prêts à faire les efforts nécessaires afin de se conformer aux exigences de Bruxelles. Et c'est là que Madrid et Lisbonne vont devoir serrer les écrous de leur budget, présenter d'ici l'automne un train de mesures en vue d'éviter tout nouveau dérapage et parvenir coûte que coûte et au plus vite sous la barre des 3% de déficit. De quoi susciter un train de mesures d'austérité, d'autant plus désagréable à passer que si ces États échappent aux amendes, eh bien la Commission a toujours la possibilité de geler les fonds structurels à ces deux pays, ce qui les priverait de sommes importantes de l'ordre de 2 milliards pour l'Espagne, plus de 300 millions pour le Portugal. On voit donc que ces États vont se retrouver sous une très forte surveillance budgétaire dans les tout prochains mois.
Merci Jean-Marc Chardon. Très rapidement, bref, pour finir ce journal au chapitre social, la grève Air France entamée aujourd'hui par les hôtesses et stewards de la compagnie pour 6 jours, 13% des vols annulés aujourd'hui, légère dégradation demain, nous dit-on, avec environ 8 vols sur 10 assurés. Et puis on a appris les projets de la direction de l'opérateur SFR, l'intention de supprimer 5000 postes d'ici 2019, soit une réduction d'un tiers de ses effectifs. Enfin, le contentement d'une partie des médecins généralistes, même si rien n'est encore signé. L'assurance maladie leur propose une revalorisation du prix de la consultation, 25 euros au lieu de 23 euros à partir du 1er mai de l'an prochain. Pour le temps de demain, la météo est semblable à aujourd'hui. Je vous laisse regarder le ciel lever le nez en l'air, édition réalisée avec Brice Garcia. Prochain journal, Laurent Vatrin, 22h.